This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Janvier Sobre, un mois de janvier sans alcool. Invitation lancée par une femme abstinente depuis 10 ans, mais qui a bien failli mourir de son alcoolisme. Laurence Côté est une ancienne cadre supérieure de l'entreprise de BTP Vinci. Pour Code Source, elle raconte son histoire, l'histoire d'une renaissance, au micro de Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Laurence Côté, j'ai 58 ans et je suis donc patient expert en addictologie. Je suis également la présidente de l'association France Janvier Sobre qui porte le projet Janvier Sobre 2020.
Nous nous retrouvons dans un café juste avant qu'elle ne prenne son train pour retourner dans le Gard où elle vit.
Si je réfléchis bien à mon enfance et à mon adolescence, dans cette famille catho-bourgeoise, on me faisait goûter les bons vins, le champagne, et à 15-16 ans, pour des raisons propres qui me sont personnelles, je quitte rapidement le foyer familial et je vais donc rejoindre des amis beaucoup plus âgés que moi, qui avaient de l'argent. Et je suis donc entraînée dans des soirées festives, très arrosées. Moi, je me souviens très bien qu'on me donnait ces cocktails très sucrés. Je vois encore les petits bouts de sucre sur le bord des verres. Hein. Et c'était ça que j'aimais à 15-16 ans, c'était le sucre. Sauf que le sucre masque le goût alcool. Et que cet alcool, il était bien là. C'était des punchs, c'était des alcools forts. Et j'en buvais, bah, écoutez, 14, 15, sur toute la soirée. On démarrait ces soirées vers 18h, 19h. On les terminait vers 5h du matin, souvent la tête dans le seau. Et donc, eh bien, déjà là, c'était des soirées alcoolisées. J'ai continué ces grosses guindailles festives alcoolisées dans le milieu étudiantin. J'ai fait une année de médecine, après j'ai fait 5 années de droit, et là, j'ai abusé d'alcool. Donc c'était les bières, les belles bières brunes, très sucrées à nouveau. On retrouve toujours le sucre, hein. Et puis là, bah, ça a duré jusqu'à 25 ans. À 25 ans, je commence à travailler. Mais là, j'ai la chance de rencontrer mon mari. Et heureusement, parce que Pierre, qui était un homme que j'ai beaucoup aimé, plus âgé que moi, il avait 20 ans de plus que moi, il m'a encadré. Et donc, tout ça s'est régulé. Et j'ai eu mes plus belles années de bonheur avec Pierre, sauf que très vite, Pierre va contracter un cancer. On s'est mariés, d'ailleurs, alors que Pierre était en chimiothérapie. Ça a été des années de bonheur extraordinaires. Par contre, je me souviens très bien que le jour du mariage, et notamment la soirée de mariage, était complètement pompette. Pierre n'a pas pu danser et ouvrir le bal avec moi. Alors, on a trouvé ça tous très rigolo. La mariée était pompette. Et déjà là, à cette époque, personne ne me met en garde sur un problème d'alcool.
Ensuite, tout va très vite. Pierre fait une rechute. Et l'hôpital reprend une place prépondérante dans la vie du couple.
Je ne me souviens pas avoir bu à cette époque-là. Je ne buvais pas. J'étais toute à ses côtés pour surmonter la maladie. Et malheureusement, cette maladie va avoir raison de nous. Et Pierre va donc décéder dans mes bras le 31 mars 1995 à 5h du matin. Et ça, je pense que c'est vraiment la première fracture de ma vie personnelle qui fait que l'alcoolisme va s'accélérer.
Forcée et malheureuse de continuer seule, Laurence Côté reste dans la maison qu'elle partageait avec Pierre, refusant toute aide de leurs familles et amis.
Cet alcool, au début, m'a apporté beaucoup de plaisir. Moi, j'étais à 2-3 bouteilles de vin ou de champagne par jour, ou une bouteille de vodka, une bouteille et demie. Malheureusement, sans le savoir, j'ai très vite utilisé cet alcool comme un anxiolytique, comme un psychotrope. Je l'ai mal utilisé et je suis tombée dans la maladie alcoolique. Pierre était un passionné d'œnologie et il m'avait d'ailleurs initié à boire des bons vins. De son vivant, j'étais plutôt dans l'excès de temps en temps, mais j'étais surtout dans l'apprentissage à la dégustation des bons vins. Et là, ça a été un merveilleux apprentissage, mais Pierre me laisse 300 bouteilles et des très bonnes bouteilles dans sa cave. Et en fait, je vais les boire pour deux, tous les soirs. Et je vais m'enivrer, je vais vite sentir que ce vin, c'était plutôt du vin et du champagne, me soulage. Soulage donc ce deuil et je m'en sers comme un anxiolytique.
Parallèlement, la vie professionnelle de Laurence Côté se passe magnifiquement bien. Elle enchaîne les postes à responsabilité, est appréciée de tous et se découvre une vraie passion pour le milieu du BTP dans lequel elle évolue.
Alors à 35-36 ans, je suis une forcenée de travail et ça va être une ascension fulgurante. De responsable, je vais vite passer directrice à secrétaire générale. Je vais changer, parce que je suis souvent sollicitée par des chasseurs de tête, donc je vais découvrir énormément de secteurs professionnels passionnants. Je vais voyager dans le monde entier. Et là, je vais tomber, tout en étant en fait déjà alcoolique, je vais tomber dans un environnement professionnel où l'alcool est constamment présent. Ça va continuer comme ça, par étapes, jusqu'à 48 ans.
Ce jour-là, le 25 janvier 2009, se tient la traditionnelle cérémonie des vœux de l'entreprise Vinci, où elle travaille. Le champagne coule à flot, les petits fours s'étendent sur des tables à perte de vue, et Laurence Côté est présente.
Cette cérémonie des vœux chez Vinci, j'avais tout fait pour ne pas y être. On était au mois de janvier. Quand vous êtes cadre supérieur, vous avez des responsabilités. Je les avais calculées sur mon calepin, j'en avais 7 d'affilée. Et ces cérémonies sont toujours extrêmement bien arrosées. Et donc les boissons alcoolisées sont là. Et vous avez peu de jus de fruits ou d'eau. Donc j'avais tout fait comme moi je savais à ce moment-là que j'avais un problème. Je voulais me faire soigner. J'avais appelé le service d'addictologie de l'hôpital de Bichat, qui m'avait écouté, qui m'avait donné une date pour me faire hospitaliser, et c'était le 14 février. Donc il fallait que je gère ce mois de janvier, qui est un mois épouvantable, à cause des cérémonies des vœux. J'arrive à éviter les 6 premières, et malheureusement, la 7e, mon supérieur hiérarchique me dit « Non, madame, on ne comprendrait pas que vous n'y soyez pas. » Du coup, j'y vais, mais je préviens mes collègues, surtout, je vous en prie, ne me tentez pas, surtout que mes collègues proches savaient que j'avais un problème, ne me tentez pas, je ne veux pas boire. J'y vais, donc par la force des choses, j'ai pas le choix. Et il y avait ces plateaux qui se baladaient là, avec ces coupes de champagne et tout, on était incités. Et là, je me souviens, un collègue proche me tente, me propose une coupe de champagne, et je la prends. On me tente donc avec une coupe. Après, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5. Et je vais rencontrer le grand président, qui est toujours le même actuel. Et comme j'étais pas d'accord avec le discours, son discours, en gros, c'était, bon, on est en pleine crise financière, hein, c'était les subprimes. C'était en 2009. Donc, il faut en profiter pour, en gros, pour licencier. Faut en profiter. Donc moi, j'avais dit, écoutez, je suis pas du tout d'accord. Alors, bien sûr, j'étais désinhibée avec l'alcool. Et je lui dis, vous savez, je pense que moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que le management, au contraire, doit aider les salariés et peut-être leur demander de faire des efforts sur le plan des primes ou sur le plan des salaires. On peut le comprendre. Mais en profiter pour mieux licencier, moi je suis pas d'accord. Et de toutes les façons, je ne suis toujours pas d'accord. Alors là, quand le DRH, le grand DRH, a vu que j'étais un petit peu en discussion animée par rapport à ce monsieur, je me souviens très bien que 3-4 personnes sont venues et nous ont bousculé un peu de telle manière que je suis, on est tous les uns sur les autres, écartés. Et là, ce qui est terrible, c'est que par contre, moi, on va me laisser en plan. Et c'est reparti, je recommence à consommer, je vais du côté, bien sûr, du bar. Et c'est là, à ce moment-là, que je m'effondre. Je m'effondre au sens propre, donc je vais rester des longues secondes par terre. Alors vous imaginez, petit tailleur, BCBG, ses petits talons, etc. Et là, moi, je vois à ce moment-là mes collègues s'enfuir. Et pour cause, parce que eux aussi avaient trop bu. Et donc je vais rester longtemps par terre. Et il y en a un qui est un de mes plus proches amis, qui l'est toujours d'ailleurs, qui était grand directeur de l'époque, directeur de filiale, qui va me relever, qui va m'entraîner vers les toilettes, qui va me refaire une tête avec un peu d'eau sur les joues, qui va me calmer et qui va me faire sortir par une entrée de secours de la salle, qui va, à ma demande, m'emmener et me redéposer à mon bureau. Je vais tomber par terre dans mon bureau, je vais uriner sous moi, et quand je me réveille 2-3 heures après, j'ai vomi, je suis dans un état pas possible, et là, je me rhabille, je sors dans mon bureau, il n'y a toujours personne, parce qu'ils sont tous à la fête, personne ne s'inquiète d'ailleurs, que devient Laurence Côté. Et je vais descendre dans les sous-sols, chercher ma voiture de fonction, et là je vais rouler sur le périph, j'ai 40 km pour retourner chez moi, et j'ai sans doute 2,5 voire 3 grammes d'alcool dans le sang. Heureusement, je ne fais pas d'accident. Et j'arrive chez moi, je pense qu'il est 19h-20h, je m'effondre. Et là, je vois mon BlackBerry, c'était de l'époque. Et là, je vois tous les messages de mes collègues. Laurence, t'es où? On s'inquiète tous, etc. Forcément, on est en train de se dire, mais elle est où Laurence? Voilà. Et j'avoue que ça n'est qu'à ce moment-là que je me rends compte de ce qui s'est passé. C'est épouvantable. Une envie de mourir. Et je suis seule avec un BlackBerry qui s'illumine dans tous les sens. Je vais sombrer jusqu'à minuit. À minuit, je me réveille bourré d'angoisse. Et là, je prends des psychotropes, j'ai toujours plein. Parce que vous savez, on est toujours en polyaddiction. Il y a moi, il y avait de l'alcool, il y avait un peu de cocaïne. Il y avait beaucoup, beaucoup de psychotropes. Donc là, j'ai pris des Xanax ou du Lexonis, je ne sais plus quoi, pour me calmer.
Laurence Côté se réveille le lendemain, samedi, morte de honte et d'angoisse, sans personne à contacter.
Quand vous avez tout perdu, votre dignité de femme, vos amis, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de continuer à picoler. Je prends la décision de me suicider, je mets mon jean, mes baskets, et je vais direction... la rame de métro de Denfert-Rochereau, dans le 14e. Et là, j'entends une cloche de l'église. Et je vais changer mes pas de direction. Et je vais rentrer dans cette église. Il était 19h. J'écoute les gens chanter, et je trouve ça extrêmement beau. Je respire à nouveau cette odeur d'encens, et ça faisait des années que je ne l'avais plus fait. J'étais pu rentrer dans une église depuis la cérémonie d'enterrement de mon mari. Et là, j'étais alcoolisée. Je m'installe au fond et j'entends le prêtre qui, à la fin de son homélie, prononce cette phrase. « Fuyez la débauche, le Seigneur vous a donné un corps, il ne vous appartient pas, il vous l'a donné pour le servir. » Cette phrase me frappe le visage et je me dis « Mais tu fais quoi de ton corps ?» Et le terme de débauché m'a frappé. Les gens quittent l'église. Moi, je vais rester encore une heure à me recueillir et à prier. Je vais quitter cette église vers 20h. Je rentre chez moi, je prends les bouteilles d'alcool. Je les vide dans l'évier. Je me prépare un chocolat chaud avec beaucoup de sucre. Je le bois, je m'allonge sur mon lit. Je n'ai plus bu une seule goutte d'alcool depuis cette seconde.
C'était il y a 10 ans. Le lendemain, dimanche, est le deuxième jour de sobriété de Laurence Côté. Elle en est si satisfaite que la perspective de retourner travailler le lundi, après ce qu'il s'est passé, ne lui fait rien du tout.
Le lundi, j'arrive au travail, sobre, depuis 48 heures. Je vais dans mon bureau. Bon, là, silence complet, personne ne vient me voir, je n'ai pas de rendez-vous, donc j'attends. Je regarde mes mails, je ne me souviens pas qu'on soit venu. Personne, silence complet. Et dans l'après-midi, j'ai un coup de téléphone de la secrétaire de mon patron qui me dit « Monsieur Untel veut te voir à telle heure ». J'y vais. Je vois ce monsieur Untel, rouge comme une pivoine, et il me dit « Le DRH va vous voir à telle heure, tel jour, c'était le lendemain ». Bon, c'est tout, il dit rien. Bon, moi je m'en vais dans mon bureau, puis je me dis « Bon, bon. On verra bien. Calme plat, hein. Tout le monde m'évite, c'est clair. Hein. Bon. Donc je reste enfermé dans mon bureau, très très seul, très seul. Et je retourne chez moi. Et là, de nouveau, petit chocolat chaud, sucre, voilà. Alors le lendemain, je vais au travail. Et donc là, le DRH me dit, bon bah écoutez, Laurence... Alors c'est extraordinaire parce que pour une fois, il m'appelle Laurence. Et pour une fois, il me parle finalement. Et il me dit, bon ben voilà, vous avez un problème. On ne peut pas vous garder, c'est tout. On n'a pas le choix, c'est monsieur Untel qui veut que... Voilà. Oh moi, je n'ai rien, vous savez, je m'en fous. Il n'y a qu'une chose qui compte, moi, c'est mon abstinence. Le reste n'est que détail. J'ai jamais été aussi heureuse. Pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est ma sobriété. C'est ce que je fais, c'est-à-dire de la prévention. Et c'est de me dire, j'ai pas de séquelles de cet alcoolisme qui aurait pu me tuer. Donc quand vous avez cette vie avec autant de souffrances et que vous avez cette chance d'être toujours en vie, vous n'avez pas le droit de vous plaindre et vous n'avez que juste à profiter des petits bonheurs de la vie.
Claudia, Laurence Côté lance pour la première fois l'opération Janvier sobre, ça s'annonce comment ?
Ça s'annonce assez suivi puisqu'en fait elle avait évoqué cette idée sur Facebook l'année dernière en créant une page au mois de janvier et elle s'était rendue compte très vite qu'il y avait énormément de personnes qui avaient été intéressées par ce concept-là et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de le lancer plus tard. Elle pense qu'on est prêt en France à entendre ça et à faire attention à notre consommation d'alcool.
Et elle veut surtout éviter de faire la morale aux autres, c'est ça ?
Oui, alors c'est pas du tout l'objet, elle insiste vraiment là-dessus. Elle veut ni culpabiliser les consommateurs, ni surtout culpabiliser les producteurs. En revanche, elle veut qu'on s'interroge tous sur notre consommation d'alcool, sans se priver forcément. Mais voilà, pour être en bonne santé, il faut consommer pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours dans une semaine. Et elle a envie qu'on fasse ça.
Laurence Côté a créé une association et écrit un livre pour aider les personnes alcooliques à s'en sortir. Quelle est sa méthode ?
Sa méthode, elle s'appelle H3D, ça couvre 3 principes, ne jamais avoir honte, être très honnête sur ce qu'on consomme réellement et avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Honte, honnêteté et humilité, ce sont donc les 3 H. Et ce que dit Laurence Côté, c'est que si on fait attention à ça, très vite, on se remet à avoir des désirs, c'est le D, et à partir de ce moment-là, on renaît et plein de choses redeviennent possibles.
C'est ce qu'elle a vécu ?
C'est exactement ce qu'elle a vécu et elle dit que son désir à elle, c'est janvier sobre, justement.
Et le livre de Laurence Côté s'appelle « Non, j'ai arrêté ». Il est publié aux éditions Interéditions. Merci Claudia Prolongeau et merci à Florence Méréo pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amouroux et Stéphane Geneste. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Code Source est disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.